marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire.
Le témoin de ce vendredi, Henri Masson, conservateur, que dis-je, éveilleur des monuments historiques.
Nous voulons tous ensemble qu'un certain nombre de chefs-d'œuvre français qui sont aujourd'hui agonisants et que l'État aujourd'hui n'est pas en état de sauver, soient sauvés. Ils le seront parce qu'il y aura des moyens d'État, ils le seront parce qu'il y aura des moyens d'argent, mais en définitive, cet argent et ces moyens ne seront donnés que parce qu'à un moment, vous aurez été là pour faire les choses avec rien. Dites-vous que, peut-être, dans une trentaine d'années, là où vous avez 50 personnes, ils en auront 2 ou 3 000.
André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, dès les années 1960, la nécessité de la médiatisation du patrimoine est apparue. L'émission de Pierre Delagarde, chef-d'œuvre en péril, a fait ses débuts sur France Inter dès 1963 et a poursuivi son cours à la télévision publique jusqu'en 1973. La séquence que Stéphane Bern inaugure aujourd'hui sur France 2 a connu des précédents. En 1964, André Malraux donc profitait d'une intervention dans Chef-d'œuvre en péril pour prévenir le public. La protection du patrimoine ne peut reposer entièrement sur l'État. Tout passera par vous. Au départ, vous serez quelques-uns. Au bout d'un moment, vous serez des milliers. C'est en effet ce qui s'est produit en 1984. Jacques Lang lançait les Journées du patrimoine, devenues depuis européennes. Elles ont lieu ce week-end. En 1996, Jacques Chirac soutenait la création de la Fondation du patrimoine. Issue des milieux de l'entreprise, elle récolte aussi l'argent des particuliers. Elle est maintenant le bras armé de la mission Stéphane Bern. Celle-ci, malgré son allure revendiquée de commando, s'inscrit en réalité dans un mouvement d'élargissement de longue durée. Et la création du loto du patrimoine, premier tirage aujourd'hui, peut se comprendre dans cette perspective. Il est tout de même étrange que ce soit un jury du loto et non les commissions habilitées du ministère de la Culture qui décident du choix des sites éligibles au bénéfice de ce jeu. Par ailleurs, le gouvernement semble constamment tenter de détricoter les lois de protection littorale, zone classée, qu'il a lui-même fait adopter. Élargissement à un large public n'équivaut pas nécessairement à dessaisissement de l'État.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Henri Masson, bonjour.
Bonjour.
J'ai dit guetteur, éveilleur en matière de monuments historiques. Vous êtes le président d'un tout nouveau collège reconstitué des monuments historiques qui veut faire parler d'une même voix les associations qui regroupent les différentes spécialités professionnelles du patrimoine. Et puis vous êtes conservateur régional, c'est votre titre, des monuments historiques. En Bretagne, Stéphane Bern dit souvent, mais ce sont sans doute les hommes de la centrale, du ministère, qu'il vise que vous êtes les uns et les autres en petit costume gris. Mais alors je vois, alors c'est votre tenue de combat là, vous pouvez la décrire? Parce que vous êtes toujours habillé de la même manière.
Je crois qu'un trait distinctif de mon uniforme, c'est mon nœud papillon. C'est ce que tout le monde remarque en tout cas.
Et puis toujours des paraboutes, parce que ça vous permet d'être sur les chantiers et en même temps dans les bureaux. Vous êtes paré pour toutes les circonstances et parfois donc un casque aussi sur la tête, non?
Sur les chantiers, bien sûr, c'est obligatoire.
Parce que vous êtes un homme de terrain, vous nous raconterez la journée d'un conservateur régional. La Bretagne, c'est passionnant, vous y êtes en poste depuis 2005 parce que, comment dire, le patrimoine est diffus et donc il concerne un peu tout le monde, ce que souhaitait André Malraux.
C'est vraiment en effet une des particularités de la Bretagne que d'avoir un patrimoine qui est très également réparti sur le territoire. Et pour vous donner un exemple, dans les Côtes d'Armor, 92% des monuments historiques sont dans des communes de moins de 5000 habitants. Et ce qui donne aussi ce qui nous donne l'obligation finalement de passer beaucoup de temps sur le terrain, puisque ces monuments sont dans des petites villes, petites communes, qui sont souvent assez démunies pour s'occuper de leur restauration.
Moitié propriété privée, moitié propriété publique. On parle là des sites qui sont soit classés, soit inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Voilà, alors pour la Bretagne, ça représente à peu près 3200 monuments.
On va entendre le grand ancêtre, je veux dire Pierre de la Garde, donc France Inter 1963, la télé en 1966, le générique de Chef-d'œuvre en péril.
Cette année, 150 000 francs de prix donnés par la Caisse nationale des monuments historiques, le commissariat au tourisme, les arts et lettres, la manufacture de Sèvres, le Touring Club de France, Air France et l'ORTF récompensent les 15 lauréats du concours chef-d'œuvre en péril 1969. Parmi les monuments primés, l'on dénombre des abbayes, des églises, des chapelles, des villages, des quartiers anciens ou des châteaux somptueux comme celui de Breteuil.
Monsieur le ministre, que vous suggère la liste du lauréat du concours chef-d'œuvre en péril?
Mais la liste me suggère quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement exemplaire.
Alors, est-ce que vous pensez que l'État va amplifier le courant
je
de ces sauvetages individuels?
Je ne peux vous faire aucune promesse de cet ordre, car je suis tenu par solidarité gouvernementale à respecter les exigences du budget. Mais ce que je puis vous dire, c'est que dans la mesure où il sera alloué au ministre une certaine autonomie à l'intérieur des enveloppes qui leur sont allouées, je m'efforcerai que l'enveloppe réservée à l'œuvre que vous dirigez, celle des chefs-d'œuvre en péril, bien soit augmentée par rapport aux années précédentes. Et d'une manière, disons, sensible, concrète, substantielle, qui satisfasse à la fois l'initiateur et surtout tous les jeunes et les moins jeunes qui s'intéressent aux chefs-d'œuvre en péril.
1969, c'est le successeur d'André Malraux qui parle, Edmond Michelet, d'ailleurs élu de la Bretagne. Pour le ministre, à l'époque, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période, Henri Masson. Il était impensable que la restauration échappe au monopole, je ne sais pas si c'est le mot, de l'État.
En vérité, plus qu'un monopole, il s'agit vraiment d'une prérogative que l'État s'est accordée depuis la Révolution, puisque la naissance de la notion de patrimoine, on peut la dater de l'époque révolutionnaire. À l'époque, on s'est rendu compte que finalement, ces éléments que nous appelons aujourd'hui le patrimoine, les monuments historiques, c'était constitutif de l'identité de la nation, et que, au même titre que la langue française, c'était quelque chose de partagé qui construit l'histoire de notre pays. C'est pourquoi l'État a toujours considéré qu'il était très important que les monuments soient entretenus. Monument, monéo, ça veut dire « je me souviens ». Et donc, en effet, jusqu'à une date assez récente, l'État était le seul habilité à être maître d'ouvrage, à être donc celui qui commande les travaux de restauration.
Et puis, les travaux ne pouvaient être entrepris qu'avec des architectes en chef des monuments historiques.
Alors, c'est ça, pour contrôler que l'argent que l'État dépensait dans la restauration des monuments historiques était bien utilisé, il s'était adjoint les compétences d'architectes donc, à qui il avait donné un agrément et qui s'assurait donc que les travaux étaient bien réalisés, que l'argent était le mieux dépensé possible.
2005-2009, c'est l'époque où vous arrivez aux responsabilités en Bretagne. Je ne veux pas dire qu'il y a des saisissements de l'État, loin de moi cette idée, mais le monopole est desserré.
Alors, le monopole, en vérité, il est constant sur ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique, c'est-à-dire que l'État s'assure que les travaux sont réalisés conformément aux doctrines de la restauration, mais pour autant, l'État, qui est aujourd'hui décentralisé, a redonné aux propriétaires la maîtrise d'ouvrage des travaux sur leurs propres monuments.
Dites-moi, en même temps, Progress, elle est créée en 1996, la Fondation du patrimoine, dont je dis un mot tout de suite, elle est créée par les milieux de l'entreprise, son conseil d'administration est contrôlé par de très grandes entreprises fondatrices, et elle a pour fonction de rassembler de l'argent privé, et vit aussi des successions en déshérence que l'État lui distribue quand on ne peut pas les distribuer aux particuliers. Maintenant, la Fondation du patrimoine, qui va jouer un rôle important dans la mission Berne, elle dispose quand même d'un certain budget. Je vois 30 millions mobilisés chaque année. Et vous, vous avez combien à la région Bretagne?
Alors, le ministère de la Culture délègue chaque année en Bretagne une somme relativement importante. Pour 2018, c'est de l'ordre de 15 millions d'euros de crédit de l'État, qui, conjugué aux participations des autres collectivités, conseils régionaux, conseils départementaux et à la part des propriétaires, génère donc chaque année en Bretagne entre 30 et 40 millions d'euros de travaux.
On dit aussi que les crédits ne sont pas toujours consommés.
Moi, j'ai pas connaissance de fait que ces crédits ne soient pas consommés. En tout cas, je peux vous assurer qu'en Bretagne, nous ne rendons jamais de crédit au ministère de la Culture.
Alors, Stéphane Bern, soutenu par le président de la République, très nettement, dit si les crédits étaient bien utilisés, ou s'il y avait suffisamment d'argent, ou si le personnel dévolu au patrimoine au ministère de la Culture faisait tout ce qu'il fallait, on ne serait pas dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. C'est pas un état de martyr.
Moi, je trouve que le discours de Malraux que vous avez fait entendre tout à l'heure est très émouvant, parce qu'on mesure le chemin qui a été parcouru depuis cette époque vraiment fondatrice, qui est celle aussi du ministère de la Culture, et on mesure le travail qui a été fait par les services depuis cette époque, parce que je crois en effet que la situation s'est considérablement améliorée, évidemment, depuis 50 ou 60 ans.
Néanmoins, pour collecter de l'argent supplémentaire, pour des monuments en péril singulier, un loto du patrimoine, on le sait, est lancé, grattage et tirage ce jour. Charline Vanhoenacker, dès le printemps, avait pointé une faiblesse de ce jeu Mission Patrimoine.
15 euros ! Un ticket à un prix pareil, c'est pas chez le buraliste qu'il faut le vendre, Stéphane, c'est chez l'antiquaire. Bon, attention, je ne critique pas l'originalité de la démarche, je reconnais d'ailleurs que c'est assez génial, vous avez inventé le loto pour les riches. Grâce à vous, Marie-Chantelle, qui habite Passy, peut enfin connaître le frisson du grattage. Oh oui, merci Monsieur Bern, sans vous, je n'aurais jamais osé franchir le seuil d'un bar PMU. Je me suis mélangée au peuple et ça m'a fait des trucs dans le bas du dos. Le dénommé Mimille était affairé sur un tacotac, ça coûte 2 balles un tacotac. Alors c'est sûr, ça rapporte pas grand-chose. Tandis que moi, avec mon ticket Mission Patrimoine, j'ai gagné 600 000 boules. Oh, j'étais un petit peu gênée d'ailleurs, hein. Un petit peu de pudeur, hein. Oui, c'est embêtant. Ça va m'obliger à ouvrir un deuxième compte offshore.
Enfin, moi je note que les gains peuvent aller jusqu'à 1,5 million peut-être. Mais enfin, on va pas chipoter, hein. Alors, les 3/4 du montant accumulé, c'est pour les gagnants. 10% c'est pour les monuments sélectionnés. Mais alors, comment sont-ils sélectionnés? La Fondation du Patrimoine, qui abrite les bureaux de Stéphane Bern et compte les garder, ils sont pas au ministère, dit notre mission pour les lieux identifiés. Ça a été, après l'identification, la sélection, et ensuite, nous finançons et nous accompagnons. Alors, un mot de la sélection. Qui l'a fait, la sélection, dans ce loto du patrimoine? Un jury composé de qui?
Le jury a été composé par M. Bern avec, j'imagine, tout les services du ministère de la Culture. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où viennent les listes. Et je pense que ça, c'est aussi une des vertus de cette opération. C'est qu'elle a donné l'occasion à des citoyens qui étaient un peu désespérés, de s'inscrire sur les listes et pour certains d'entre eux, d'être retenus. Et nous, on a bien sûr regardé tout à fait en détail l'ensemble de ces listes, sur lesquels on a bien sûr donné notre accord.
Votre accord ou votre avis?
Notre avis favorable.
Votre avis consultatif favorable. Et après, financer et accompagner, mais c'est votre job de financer et d'accompagner.
Cela ne nous dispensera pas, en effet, de continuer à accompagner sur le plan financier, administratif et technique tous ces projets dont nous nous réjouissons.
Qu'ils s'accomplissent, parce que vous les avez préparés.
Nous avons fait notre travail.
Alors, votre travail, on va le décrire, et votre travail, il est un peu particulier, dans une région maritime. On va commencer par Douarnenez, où on entend depuis longtemps le chant des ouvrières dans les conserveries, enfin, sauf que toutes les conserveries ont fermé.
À 13 ans, ma mère me dit, tiens, maintenant tu n'iras plus à l'école, va falloir que tu travailles. Alors, elle m'avait donc trouvé une place à l'usine, déjà, elle était là. Alors, les petites filles comme moi, il fallait couper le bout de la sardine pour qu'elle se présente bien dans la boîte, et puis tailler la queue de la sardine. Alors, on mettait ça, une comme ça, c'est-à-dire, on appelait ça marier la sardine. On avait une, on appelait ça à l'époque une commise, on disait pas la contre-maîtresse. Elle passait, comme ça, entre les tables, et elle était dans l'obligation de vérifier si l'emboîtage était fait très bien. Alors, elle prenait donc une boîte au hasard, elle la renversait comme ça, de façon à ce qu'elle mette le fond de la boîte en l'air. Ah, s'il y avait un pic sur une sardine, qui a mis cette boîte là? Cela n'est pas bien. Et puis, vous n'avez pas fait un joli fond, ça me plaît pas. Recommencez. Et ne massacrez pas la sardine. On allait envoyer ce plateau-là aux huileuses. Alors, il y avait différentes de boîtes. Il y avait à l'huile d'olive, il y avait l'huile d'arachide, et il y avait de l'huile qui était mélangée, qui était moins bonne, quoi, hein, pour les boîtes de rebut. Inutile de vous dire qu'on était trempé avec l'huile. Hein. On n'avait pas encore inventé les tabliers cirés. Alors, hein, le ventre, tout ça, c'était imprégné d'huile. Hein. Épouvantable.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Premier loto du patrimoine, xème journée du patrimoine ce week-end. Elles sont devenues européennes, notre invité Henri Masson, conservateur régional des monuments historiques en Bretagne. Stéphane Bern, qu'on savait habitué des salons et des palais princiers, a découvert le patrimoine industriel. Vous connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine d'ailleurs ?
Précisément, nous venons d'inscrire puis de classer une conserverie de sardines à l'Octudi, qui était restée en main privée et qui présentait le très grand intérêt d'avoir conservé tout son mobilier. Et donc, ce bâtiment donc classé au titre des monuments historiques est en cours de restauration grâce à l'investissement de la mairie de l'Octudi.
C'est le seul établissement de conserverie conservé.
C'est le seul que je connaisse, en tout cas, encore en Bretagne.
Alors, vous arpentez la région. Qu'est-ce que c'est la journée d'un conservateur en chef? J'imagine que c'est quelqu'un qui passe quand même pas mal de temps au bureau.
Oui, il faut passer un petit peu de temps à son bureau. Et puis, il faut aussi passer beaucoup de temps sur le terrain, puisque c'est là qu'on nous attend, puisqu'on ne peut pas donner des avis sur l'état des monuments depuis son bureau. Il faut aller les voir.
Exemple, vous avez ouvert votre agenda.
Ben par exemple, mardi dernier, je suis parti à 8h moins le quart de la Drac pour aller à Guimillot, dans le pays des Enclos, pour évoquer avec les élus leur projet de centre d'interprétation du pays des Enclos. Ensuite, nous sommes allés à Sibérine, donc sur la côte nord du Finistère, pour constater les travaux de restauration d'un moulin qui fonctionne de nouveau, une propriété privée. Ensuite, nous sommes allés à Saint-Paul-de-Léon. Et enfin, nous avions rendez-vous à Saint-Jean-du-Doigt, qui est une toute petite commune du bord de la rivière de Morlaix, qui a une église absolument magnifique, un trésor d'orfèvrerie du XVIe siècle, et qui est présenté pour être visible du public. Et voilà, nous avons avec Madame le maire et son équipe, et l'architecte des bâtiments de France, fait le bilan des travaux que nous allons accompagner l'année prochaine.
Madame le maire, qui dirige une petite commune, elle est un peu démunie. Une spécificité du travail que vous faites en Bretagne, c'est d'apporter une assistance aux petits propriétaires et aux petites communes.
Précisément, parce que pour un maire qui n'est forcément pas du métier et qui a aussi beaucoup de sujets à gérer, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse de toutes les suggestions du métier de maire, la restauration du monument, c'est extrêmement complexe. Et dans le cadre réglementaire que vous avez rappelé tout à l'heure, de la restitution de la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires, ça devient tout à fait difficile pour ces toutes petites communes de faire ces travaux. Donc nous sommes redéployés, les services de la conservation régionale se sont redéployés dans un dispositif d'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des petites communes, ce qui nous permet d'être vraiment très proches des élus et de suivre vraiment les projets au jour le jour.
Et ça repose sur l'engagement personnel, le choix personnel que font les petits hommes gris.
Ça repose sur le choix personnel que font les petits hommes gris du ministère, qu'il s'agisse de ceux qui travaillent rue Saint-Honoré ou qu'il s'agisse de ceux qui travaillent à l'hôtel de Blossac à Rennes.
Vous n'êtes pas la honte de la République, Henri Masson, rassurez-vous. Alors, votre vie vous permet aussi d'aller en mer, parfois de prendre l'hélicoptère, direction les Glénans.
Ici Delta Alpha Sierra, bonjour Lorient. Nous venons de Brest, sommes en approche des Glénans pour un survol à 1000 pieds.
Bien reçu. Vous faites un survol des Glénans. Rappelez-nous pour tout changement.
L'Octe n'est pas très facile par la mer parce qu'il n'y a pas de calme. Donc on ne peut pas accoster avec un bateau. Évidemment, c'est un inconvénient. Moi, quand j'arrive avec des bouteilles de gaz ou avec des caisses d'eau minérale, on se dit, s'il y avait une cale, ce serait bien commode. Mais on s'y fait très vite et puis on apprend à ne rien jeter. Bon, c'est bon, on va prendre un petit whisky dès qu'on sera arrivé. C'est magique. D'ailleurs, on a une sorcière qui habite en dessous de l'étang. Je m'en méfie un peu. Pour moi, les Glénans, c'est le plus bel endroit du monde. Hein. Parce que, bon, quand on va dans les tropiques, c'est formidable. Il y a des cocotiers, il y a le soleil, il y a tout. Mais c'est toujours pareil. Tandis que les Glénans, il n'y a pas une journée qui soit la même. L'été, les Glénans, il y a des couleurs d'eau extraordinaires. On peut se croire en Floride. Et puis l'hiver, il y a la brume, il y a tout ça. On peut se croire aux îles Féroé ou on peut se croire en Irlande.
Témoignage de Monsieur Bolloré. Je dis Monsieur Bolloré parce que c'est le vrai Bolloré, Gwenaël Bolloré, qui a vendu son cheval à 16 ou 17 ans pendant l'occupation, a utilisé un bateau construit à Sibiril pour rejoindre l'Angleterre, a participé au débarquement et protégeait comme la prunelle de ses yeux ou comme son whisky préféré l'île qu'il possédait dans les Glénans. Alors racontez-nous les Glénans. Est-ce que vous y faites, vous ?
Alors, nous nous occupons aussi en ce moment beaucoup d'un projet de restauration du Fort Sigogne, qui est une construction de la fin du XVIIIe siècle, qui a une forme tout à fait curieuse, et qui était propriété du Collège de France, et qui était mis à disposition du Centre Nautique des Glénans, l'école de voile bien connue, dont malheureusement les stagiaires étaient hébergés dans des conditions assez épouvantables. Et donc nous avons préparé un projet de restauration du monument et d'aménagement, en fin de compte, des conditions de séjour des stagiaires. Donc.
Alors j'insiste sur Fort Sigogne, parce qu'on en parle beaucoup dans la publicité du loto du patrimoine, mais c'est vous qui avez inscrit, ou fait inscrire, c'est vous qui avez classé, ou fait classer, et c'est vous qui avez préparé les études techniques.
Bien sûr.
Et donc l'identification par le loto du patrimoine et la récompense par le loto du patrimoine, c'est quoi, 160 000 euros au max ?
Mais nous, on est très heureux que ce monument ait été sélectionné parce que d'abord, c'est un très beau monument. Ensuite, ça couronne les efforts de tous ceux qui s'y sont employés, et ils sont très nombreux, qu'il s'agisse des équipes du Centre Nautique, qu'il s'agisse de la mairie de Fouesnant, qu'il s'agisse aussi de tous les fonctionnaires qui ont travaillé, y compris dans d'autres administrations, à la préfecture, parce qu'on est dans un complexe assez difficile sur le plan réglementaire. Voilà. Et surtout, on se réjouit beaucoup, et je pense que ça a été un des axes du choix de la Fondation du patrimoine de Stéphane Bern, que ce bâtiment, donc, qui est un vieux monument, ait une utilité sociale aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment le couronnement qui a été... C'est pour cette raison que ce projet a été choisi.
On note tous la version concertante que vous donnez de la mission Bern. Alors, une note discordante, et là, vous allez peut-être être d'accord avec Stéphane Bern. La loi littorale.
Je suis d'accord avec lui.
La loi littorale protège les Glénans. Puisse Vincent Bolloré conserver aussi bien que son oncle l'île Locke qui l'y possède. On a vu quand même des velléités du milieu macroniste pour ébrécher la loi littorale. Et une loi dite Élan contient un article qui limite l'avis des architectes des bâtiments de France sur les projets de rénovation qui pourraient avoir lieu dans les villes et les villages autour de 500 mètres d'un bâtiment ou d'un site classé. Et Stéphane Bern dit, attention, c'est du détricotage. Et vous, dans votre association, le Collège des Monuments Historiques, vous craignez qu'un jour ou l'autre, il y ait des dépeçages législatifs.
Alors, en effet, notre collège... porte en fait le travail du service des monuments historiques au sens large, qui présente la particularité d'abord d'être un très ancien service, puisque les bases en ont été fondées au milieu du XIXe siècle, mais qui présente la particularité de comprendre l'ensemble des éléments de la chaîne patrimoniale. C'est-à-dire que c'est nous, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui sommes les initiateurs des protections au titre des monuments historiques. C'est nous qui accompagnons les propriétaires sous l'angle scientifique, technique, administratif et aussi financier. Et c'est aussi nous, la composante des architectes des bâtiments de France, qui veillons sur les paysages et sur les abords des monuments. Donc tout ça est exceptionnel, puisque donc l'État a gardé la maîtrise de l'ensemble du processus patrimonial.
Et donc, alors, si un maire dit il y a des rats qui infestent ce quartier pourri, il n'y a pas la possibilité de sauver les bâtiments, il faut donner sa chance à une construction nouvelle, l'architecte des bâtiments de France pouvait mettre son veto, et il le peut encore.
Il le peut toujours. Alors, pour l'instant, l'avis de l'architecte, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France est remis en question de manière assez marginale. Mais c'est vrai que, voilà, on peut être inquiet. On espère tous beaucoup que ce dispositif, mis en place là aussi par Malraux, sera pérenne parce que c'est la garantie de la conservation du patrimoine et de ses abords.
Au fond, Stéphane Bern, il vous arrange parce qu'il défend les architectes des bâtiments de France. Il arrive à donner de la couleur aux petits hommes gris, quoi.
Nous, on pense aussi que une des grandes vertus de ce dispositif, c'est que ça rend encore plus public le débat sur le patrimoine, ça fait participer les citoyens encore davantage. Et pour revenir sur l'extrait que vous nous avez fait passer tout à l'heure, je crois, même si j'ai pas encore vérifié, qu'il y a aussi des tickets à 3 €, donc qui permettront pratiquement à tous les citoyens de contribuer à la restauration du patrimoine.
Au fond, vous n'auriez pas fait comme lui, parce que vous ne savez pas faire comme lui.
Vous parlez de Stéphane Bern.
Oui, toujours. Excusez-moi.
Nous ne savons pas communiquer. C'est un de nos grands défauts.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'un échec ou d'un échec prévisible dans votre travail ou d'un grand débat qui aurait besoin d'être médiatisé?
Moi, je pense. J'aime pas parler d'échec, mais je peux vous parler d'un projet qui pour l'instant n'est pas encore abouti. Qui consisterait, nous avons le projet de mener une campagne de protection des édifices de la reconstruction à Lorient et de la période de l'occupation.
C'est-à-dire que vous parlez de la base sous-marine.
Et nous avons visité, nous connaissons très bien la base sous-marine, et en particulier ce qu'on appelle le K3, qui est sur le plan historique et patrimonial quelque chose d'absolument exceptionnel à l'échelon international. Et nous sommes en discussion aujourd'hui beaucoup avec la mairie de Lorient, avec Lorient Agglomération, pour voir de quelle manière on peut assurer la protection et la transmission de ce monument exceptionnel.
Mais à Saint-Nazaire, la base sous-marine, presque en face du centre, on a choisi de la conserver, de pouvoir monter dessus, de pouvoir descendre en dessous, de pouvoir la traverser, et c'est devenu un grand lieu d'animation. La mairie de Lorient, elle veut pas comprendre ça?
Moi, je pense que c'est l'avenir qu'on peut souhaiter à la base sous-marine de Lorient, qui a déjà commencé d'ailleurs par l'aménagement de la Cité de la Voile, et aussi par le musée du sous-marin, qui est extrêmement fréquenté et qui montre donc l'intérêt des citoyens et des touristes pour ce patrimoine.
Donc ça, c'est une discussion pied à pied, si j'ai bien compris. Autre échec, il n'y a pas des restaurations discutables auxquelles vous ayez procédé?
Tout est discutable. Et je crois qu'une des raisons que nous devons nous faire, c'est que les restaurations parfaites n'existent pas et qu'elles résultent toujours d'un compromis.
Ah donc, vous cherchez le consensus, Henri Masson?
Autant que possible.
Vous l'avez montré d'ailleurs au long de cette émission. Merci néanmoins d'y être venu. C'est Franck Olivard, Frédéric Martin, Olivio Segura, Ilinka Negulesco qui prépare cette émission dont la réalisation est assurée par Audrey Ripouille avec aujourd'hui à la technique Ronan Mahé.